Pourquoi parler de ces deux personnages, donc, que sont Chiang Kai-shek, Mao Zedong, hein, ou Chiang Kai-shek, hein, et Mao Zedong? Pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas rien, c'est quand même les deux plus grands dirigeants chinois, hein, du XXe siècle. Hein, ce sont les deux grands dirigeants, on regarde l'histoire de Chine, hein, ce sont les deux grands personnages. Il y a évidemment Sun Yat-sen, hein, qui est un peu plus âgé que ces deux personnages. Sun Yat-sen qui est le créateur, hein, de la première république de Chine, mais qui est mort prématurément, enfin assez tôt, et donc qui n'a pas réussi, on pourrait dire, à réaliser son objectif, hein, qui était de la réunification de la Chine et surtout l'indépendance de la Chine par rapport aux puissances extérieures. Alors, ce qui est intéressant aussi ces deux personnages, c'est que ce sont des destins croisés, on va le voir, hein, c'est-à-dire que ces personnages, tout au long du XXe siècle, se croisent, se recroisent, s'opposent, vont s'allier, parfois, sans entretenir d'ailleurs des rapports personnels, hein, sont des gens qui ne se rencontreront finalement qu'assez peu. Les négociations, par exemple, entre le Parti communiste et le Kuomintang, donc le Parti nationaliste, vont se faire souvent à un niveau inférieur que les deux grands dirigeants. Mais en même temps, c'est des destins, on va le voir, croisés, parce que on va voir que tout ça tourne autour, hein, les deux destins tournent autour, évidemment, à peu près des mêmes questions. Ce sont aussi des destins croisés, parce que on a tendance à classer ces deux personnages dans des cases relativement claires. Hein. D'un côté, on a le marxiste moderniste nationaliste que serait Mao, hein, parce que Mao serait donc un personnage marxiste de première importance, ce serait un moderniste aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui est en faveur d'une transformation radicale de la Chine, et ça serait le plus nationaliste, puisque on dit souvent que Mao a été beaucoup plus que Chiang Kai-shek, disons, radical dans son opposition, par exemple, aux envahisseurs japonais. Il y aurait une radicalité, on pourrait dire, de Mao par rapport aux puissances étrangères. D'un autre côté, il faut dire que Chiang Kai-shek a mauvaise presse. Hein. Autant Mao a d'un côté à la fois mauvaise presse et bonne presse, c'est-à-dire on pourrait dire, hein, un petit peu comme en Chine alors actuellement, il y a 70% de bons, 30% de mauvais chez Mao, c'est-à-dire que 70% en gros jusque dans les années 60, c'est un grand personnage, il a réunifié la Chine, c'est un type fantastique, etc., etc. Et puis bon, après ça dégénère un peu à partir des années 60, le grand bond en avant, la révolution culturelle, et là on aurait les 30% de mauvais. Hein. Bon, c'est un petit peu comme ça que c'est jugé à l'heure actuelle en Chine. Enfin quand même 70% de bons, et dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une espèce de retour en grâce de Mao penseur marxiste, hein, dans un certain nombre de gens comme Alain Badiou par exemple, qui trouve que c'est un très très grand penseur du marxisme. Donc vous voyez, il y a quand même globalement quelque chose de positif, même si on sait qu'après il y a eu des massacres, le goulag, etc., etc. Chiang Kai-shek, rien n'est bon chez Chiang Kai-shek quand on regarde un petit peu ce qui se dit dans les livres. Il apparaît comme un militaire un peu coincé, quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup de culture. Il apparaît aussi dans les histoires que l'on peut lire, dans l'histoire que l'on lit d'une manière générale, parce que précisément, il faut vous dire qu'il y a une seule biographie complète de Chiang Kai-shek, hein, sur le marché et en anglais. Hein, c'est quand même très très étonnant, ce personnage qui, je vous le rappelle quand même, est un des quatre grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Eh oui, à côté de Churchill, de Roosevelt et de Staline, c'est le quatrième, hein, général de Gaulle étant laissé quand même à l'écart, hein, de toutes les grandes négociations. Hein, bon, donc c'est un des grands vainqueurs, hein, bon, un personnage quand même, c'est pas rien. Eh bien ce personnage ne suscite pas les biographies. C'est un type qui serait serait donc réactionnaire aussi, parce que une fois réfugié à Taïwan, il n'aurait pas essayé en fait de transformer la Taïwan, mais au contraire d'en faire une espèce de lieu de préservation des cultures traditionnelles chinoises. Il aurait instauré un gouvernement que l'on appelait fasciste, souvent, hein, quand on en parlait dans les années 50, 60, 70. Donc un personnage qui n'est pas du tout sympathique, et qui aurait pactisé aussi avec les Japonais, qui n'aurait pas été très très clair avec un certain nombre de bandes de brigands, notamment la bande verte qui contrôlait Shanghai dans les années 10, 20, 30. Donc un personnage qui est vu de manière très très négative, sauf cette biographie effectivement que je vous recommande si vous lisez l'anglais, qui est une biographie qui est beaucoup plus justement intéressante et qui donne une image tout à fait quand même assez différente de ce personnage. Alors une opposition, alors que je vais essayer de le montrer, quand on regarde les choses de près, ces deux personnages ont beaucoup de points en commun. Ces personnages ont beaucoup de points en commun. Un des points en commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont tout de même le produit de cette drôle d'époque qu'a connue la Chine, c'est-à-dire cette époque qui est à cheval entre, une époque charnière évidemment, entre l'ancienne Chine, on pourrait dire. Ils sont nés tous les deux sous l'Empire, hein, Chiang Kai-shek en 1887 et Mao en 1893. Ils ont été élevés sous l'Empire. Hein, ils ont à la jonction entre cette époque de l'Empire et puis cette époque de modernisation. Mais on va le voir, complètement bordélique, complètement anarchique, complètement instable, qu'a connu la Chine à partir de 1911 jusqu'en 1949. Donc c'est le produit de la vieille Chine, on pourrait dire, ou en tout cas de cette Chine où il restait encore des éléments très forts, on pourrait dire, de l'Empire chinois. C'est le produit aussi de cette époque où justement l'Empire chinois commence à s'écrouler, où les étrangers envahissent, contrôlent le pays, où les Japonais envahissent réellement le pays, etc. Et le moment de ce sursaut, on pourrait dire nationaliste, hein, très fort, à partir du début du siècle et jusqu'en 1949, où la question de la nation chinoise devient une question absolument centrale et même, on pourrait dire, quasi unique, hein, de la scène politique chinoise. La seule chose qui intéresse les gens, c'est précisément comment restaurer la grandeur de la Chine, l'unité de la Chine, la nation chinoise. Et à ce titre, ils sont tout à fait représentatifs de cette époque où finalement ce qui compte, c'est créer un État, c'est renforcer l'État, c'est mettre les étrangers à l'extérieur. C'est créer une armée puissante, la chose militaire devenant majeure. Et pour les deux personnages, la seule façon de mettre en place un État, on pourrait dire avec une armée puissante, contrôlant l'ensemble du pays, c'est de créer un parti puissant, unique, qui contrôle l'ensemble de la société. Il y a cet élément, on pourrait dire, d'attachement à un parti léniniste, on pourrait dire, c'est-à-dire un parti très centralisé, et qui touche absolument toutes les, on pourrait dire, toutes les sensibilités de la société. C'est ça aussi qui fait le trait commun, hein, de Mao et de Chiang Kai-shek. Alors on va le voir que ça prendra évidemment chez l'un et chez l'autre des situations, des formes évidemment différentes, parce que c'est pas le même personnage, ça sera pas le même milieu social, ça sera pas les mêmes événements, on va pas être attaché évidemment aux mêmes choses, mais dans les deux cas, hein, le parti communiste dans un cas, de l'autre côté la question, le Kuomintang, donc le parti nationaliste, ce sont bien ces deux instruments qui doivent dans leur esprit normalement réussir à réunifier le pays sous une seule bannière et à le moderniser, hein, avec un terme de modernisation extrêmement vague, hein, et qui va changer chez l'un comme chez l'autre à travers l'histoire. Très rapidement, hein, avant de vous parler de ces deux personnages, quelques mots quand même très rapides sur la situation au moment où ils vont naître, on pourrait dire tous les deux. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'évidemment les années 1840-1976, pourquoi 1976? Parce que c'est la mort de Mao, hein, Chiang Kai-shek mourra en 75, vous voyez, qui se tiennent un peu par la barbichette, hein. D'ailleurs à la fin c'était un peu de savoir qui allait mourir le premier, hein, ou plutôt le dernier, enfin celui après l'autre, hein, étant donné que chacun attendait l'écroulement du régime de l'autre, hein, l'un à Taïwan et l'autre sur le continent, en se disant s'il meurt peut-être que ça va s'écrouler, donc on va pouvoir récupérer le truc. Finalement c'est Mao qui va gagner, pas de beaucoup, hein. Finalement ça va rien changer puisque, comme vous le savez, la question de Taïwan n'est toujours pas résolue aujourd'hui. Donc ça, il se trompait totalement dans ce jeu un peu bizarre, des compétitions un petit peu bizarres entre les deux. Donc 1840-1976 ou 75-76, peu importe, c'est évidemment une période extrêmement importante en Chine. Qu'est-ce qui se passe depuis 1840? Comme vous le savez, puisqu'on en avait parlé, je crois, il y a à la fois l'année dernière et puis l'année d'avant, 1840, en gros, hein, 1839, 1842, bon, c'est la guerre de l'opium. En fait, c'est l'arrivée, on pourrait dire, tonitruante des étrangers en Chine, qui commence à grignoter peu à peu la souveraineté de la Chine, sans en faire un pays, comme on l'a dit l'année dernière et l'année d'avant, sans en faire un pays qui serait vraiment un pays colonisé. La Chine n'a jamais véritablement été colonisée par des puissances étrangères, mais sous contrôle, disons, hein, des puissances étrangères. Cette situation, avec d'un côté donc un empire chinois qui est incapable de résister à la pénétration étrangère, hein, non seulement la pénétration étrangère des grandes puissances, États-Unis, Angleterre, France, Allemagne, etc., mais aussi le tout jeune État moderniste japonais, ce qui est quand même un choc pour les Chinois. Rappelons-nous que le Japon est traditionnellement un pays plutôt sous l'influence chinoise, hein. En tout cas, il y a un sentiment de supériorité traditionnelle de la Chine par rapport au Japon, et un sentiment un peu de reconnaissance culturelle, on pourrait dire, chez les Japonais. Les choses basculent complètement à la fin du XIXe siècle, puisque le Japon commence même à grignoter des parts du territoire chinois et ne cache pas qu'elle a envie effectivement de contrôler une partie utile, en tout cas la partie utile du territoire chinois. Le XIXe siècle, c'est donc un pays où c'est encore une époque où jusqu'en 1911, peu à peu, les grandes puissances grignotent la souveraineté, s'installent, où les missionnaires s'installent aussi, où des armées étrangères s'installent, qui contrôlent certaines régions, où on doit faire des concessions aux étrangers. Il y a des territoires qui appartiennent, ou des morceaux de villes qui appartiennent aux puissances étrangères. Donc il y a une espèce de dépeçage, mais d'un dépeçage, disons que personne ne veut prendre la responsabilité de prendre l'ensemble ou de contrôler l'ensemble. C'est plutôt le dépeçage de ce qui peut être intéressant. On prend les bons morceaux, hein, et on laisse les autres morceaux au contrôle d'un empire qui est en train de complètement s'écrouler. Et à partir de la fin du XIXe siècle, la situation est complètement catastrophique. Notamment, non seulement il y a des guerres entre les puissances étrangères et la Chine, mais il y a des révoltes populaires, il y a des phénomènes de brigandage absolument énormes, hein, devenir brigand apparaissant à beaucoup de gens comme une façon de survivre dans des situations catastrophiques. Il y a des désastres naturels absolument terribles, avec des fleuves qui changent de lit du jour au lendemain sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, des famines, des sécheresses absolument terribles, des gens qui profitent évidemment de la situation pour accaparer des terres, donc des paysans de plus en plus nombreux sans terre, qui se réfugient dans les grandes villes, donc avec une surpopulation dans les grandes villes absolument terrible. La situation, on peut dire, jusqu'en 1911, est absolument terrible. Et là, en 1911, miracle des miracles, hein, et donc encore une fois, ces deux personnages vont connaître cette époque-là. Ils seront tout jeunes étudiants à ce moment-là. La révolution de 1911, ou plutôt l'écroulement total de l'Empire, qui finalement laisse tomber absolument tout, et ce sont un certain nombre de officiers républicains. Hein, il y avait un fort sentiment, comme souvent à cette époque d'ailleurs, dans beaucoup de pays, de sentiments, disons, républicains dans l'armée, beaucoup de pays qui sont dans des situations un peu difficiles. Finalement, le dernier rempart de la modernisation, c'est l'armée. Mais grand espoir, en 1912, on proclame la République de Chine. Donc, l'idée, c'est quoi? Parmi, disons, l'intelligentsia chinoise, parmi les étudiants, hein, parmi aussi les premiers capitalistes chinois, ceux qui ont déjà développé des activités, enfin parmi tous ceux qui ont envie de voir le retour d'une souveraineté chinoise et d'un développement chinois, c'est un formidable espoir. Hein. On se dit, ça y est, hein, on va devenir un pays comme un autre finalement, parce que bon, qu'est-ce que c'est qu'un pays comme un autre? C'est un pays avec une république, c'est un pays, voilà, avec des élections, avec etc. Tous ces gens-là avaient lu Rousseau, etc., etc. Il y a un grand renouveau intellectuel à la fin du 19e siècle et tout au début du 20e siècle, un vrai sentiment que l'on va enfin sortir de l'ornière. Et puis, immédiatement, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que quelques mois plus tard, après la proclamation en fait de la République, finalement, le pouvoir tombe dans les mains des militaires, mais alors pas des militaires justement qui étaient engagés, on pourrait dire, dans l'idée républicaine, mais au contraire les vieux chefs d'armées locales, on appelle les seigneurs de la guerre, qui vont récupérer le territoire jusqu'en 1928. Hein, faudra attendre 1928, c'est le temps des seigneurs de la guerre, faudra attendre 1928 pour que de nouveau on ait un semblant de réunification. Pendant ces années-là, donc, au contraire, le chaos est encore peut-être pire que l'époque, à l'époque, et même sans doute pire qu'à l'époque de l'Empire. On n'a plus d'Empire, mais on n'a pas de République non plus. On n'a pas de gouvernement. Le gouvernement central à Pékin contrôle vaguement Pékin, et en dehors de ça, ce sont les seigneurs de la guerre, plus ou moins financés par les puissances étrangères qui manipulent un petit peu tout le monde, et on est dans une situation encore plus chaotique. Donc c'est les années 1911-1928, c'est vraiment des années de déception, de doute parmi tous ceux qui en Chine veulent changer des choses et restaurer l'unité nationale. Mais ce sont des époques où justement, c'est une époque aussi où il y a un tournant majeur dans cette intelligentsia. C'est un moment où l'intelligentsia se détourne en fait de la question de la démocratie. C'est-à-dire que autant jusqu'à 1911-1912, la plupart des gens dans cette élite intelligentsia était en faveur d'une démocratisation, de la mise en place d'un système libéral, etc. La déception de la Première République fait que ces gens s'orientent de plus en plus vers des solutions beaucoup plus autoritaires. Et c'est à partir de ce moment-là que s'enclenche ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette logique de parti unique, c'est-à-dire de cette idée que la Chine est dans un tel état de décrépitude, de sous-développement, d'abêtissement culturel et éducatif, que finalement, il faut d'abord, avant de passer à une république, à quelque chose d'un peu construit et démocratique, il faut d'abord changer profondément les mentalités, les structures sociales, et pour ça, il faut un parti unique, puissant, hein, qui va forcer finalement la société, hein, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de parti léniniste, qui va forcer la société finalement à changer. Hein. Il y a beaucoup à l'époque de gens qui considèrent que finalement non, les Chinois sont trop bêtes pour la démocratie pour l'instant, que c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on entend aujourd'hui encore en Chine, hein, chez beaucoup de gens, y compris chez les intellectuels chinois, finalement les Chinois ne sont pas encore prêts pour la démocratie. Il faut une population éduquée, intelligente, qui comprend bien les affaires de la politique et les affaires du pays avant véritablement de leur donner justement des droits et leur permettre de choisir leurs dirigeants. Tant qu'on reste encore dans cette situation où la Chine à 90% est constitué de paysans, hein, les Chinois sont à 90% des paysans souvent illettrés, qui ne savent pas grand-chose, hein, de la gestion d'un pays, etc., on n'avancera pas. On ne pourra pas s'imposer auprès des pays étrangers, surtout, on ne pourra pas imposer des solutions contre les seigneurs de la guerre. Ce sont les seigneurs de la guerre qui ont le pouvoir en main parce que, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des armes, ils ont la force, hein, ils ont la puissance militaire. Et si on ne s'appuie que sur la démocratie, la démocratie, c'est pas beaucoup de fusils. Hein. La démocratie, c'est quelque chose qui ne peut pas imposer un quelconque pouvoir politique. Donc, s'impose à cette époque-là l'idée qu'il faut une armée, un État et un parti puissant, d'une certaine façon, pour renverser les seigneurs de la guerre, mais aussi renverser les puissances étrangères et réunifier ensuite le pays. Une fois que tout sera fait, on va pouvoir rediscuter d'histoire de souveraineté du peuple, de démocratisation, de système politique, etc. etc. Alors, c'est plus ou moins ce que vont réussir à la fois le Parti communiste et le Kuomintang dans les années 1928-1937, c'est la restauration d'une unité nationale, parce que en 1923-24, on commence à avoir des contacts très importants, très profonds entre le Kuomintang et la Russie soviétique. Et oui, parce que ce Kuomintang est très isolé internationalement, évidemment. Il a loupé la République, il s'est réfugié pour l'essentiel d'abord au Japon, ensuite à Shanghai, puis ensuite dans le sud de la Chine. Il a essayé de se reconstituer, surtout de reconstituer une armée pour reconquérir le pays. Hein. Il ne s'agit plus simplement maintenant de faire un coup d'État, de proclamer une République, etc. Maintenant les choses sont sérieuses, c'est la question militaire qui se pose. Où trouver évidemment des appuis extérieurs, certainement pas chez les Français, les Anglais, etc., qui n'ont aucun, de leur point de vue, intérêt à renforcer évidemment un parti nationaliste qui veut les mettre, les rejeter à la mer, mais ils trouvent, par chance, et ça vous voyez, c'est les chances de l'histoire, hein, l'Union soviétique est elle-même une puissance complètement isolée, hein, que personne ne veut, hein, et ma foi, quand on est seul, hein, on est deux personnes seules, ma foi, on se marie, on se lie parce que, ma foi, on n'a pas le choix, hein, de toute façon, et donc voilà. C'est un peu comme ça, hein, je caricature un peu, mais c'est un petit peu comme ça. Et très rapidement, les choses vont très bien s'enclencher entre les deux puissances. Il y a un petit parti communiste tout petit, hein, en Chine qui se crée en 1921, qui est absolument ridicule, hein, quelques dizaines de membres, mais là aussi les choses se passent relativement bien, le Komintern donc à Moscou finançant le Kuomintang, à condition que le Kuomintang s'allie avec le parti, avec dans l'idée évidemment que le parti va grossir, puis peut-être devenir plus puissant que le Kuomintang, et puis peut-être que la Chine va devenir communiste, etc. Enfin, tout le monde rêve, hein, tout le monde fantasme évidemment à sa façon. Du côté du Kuomintang, c'est évidemment pas comme ça qu'on voit les choses. On se dit on va profiter de la Russie pour l'instant, etc., etc. On reverra ça très 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 rapidement. En tout cas, les choses se fonctionnent très bien puisque en 1928, il y a la réunification du pays. réunification du pays théorique, malheureusement. Puisque en 1928, effectivement, presque tout le territoire est réunifié sous la houlette donc, de ce Chiang Kai-shek dont je parlais tout à l'heure. Pas exactement, hein, puisque certains endroits, comme on dit, résistent. Et c'est pas un petit village gaulois, hein, cette fois-ci, qui résiste. C'est beaucoup, beaucoup de choses qui résistent. Hein. D'abord, mais c'est l'opposition à cette époque-là qui est la moins forte, ce sont des guérillas communistes, hein, dans des régions un peu reculées, qui n'embêtent pas trop le pouvoir de Chiang Kai-shek. Mais... quand même, hein, une espèce de bande, ce qu'il appelle les bandits chinois, les bandits rouges, hein, qui de temps en temps font des coups de main, etc., et gênent un petit peu les communications dans certaines régions. Mais les vrais problèmes sont pas là, les vrais problèmes sont d'abord, c'est les puissances étrangères qui sont toujours présentes, qui ne veulent absolument pas négocier leur départ, hein. Ils ont des concessions, ils ont des privilèges en Chine, ils veulent les garder. Là-dedans, évidemment, la puissance la plus forte, c'est le Japon, hein, là qui veut plus que ça, même qui veut un petit peu manger des morceaux de la Chine. Et puis enfin, il y a les seigneurs de la guerre, parce que tout au long de la reconquête du territoire, bah, plutôt que de faire la guerre, on a souvent essayé de négocier. Donc la chose était relativement simple, hein, le seigneur de la guerre qui contrôle le Hunan, bah, on va lui dire, écoute, tu acceptes la réunification sous mon égide, et puis je te nomme gouverneur de Hunan. Bon, le seigneur de la guerre dit, ouais, bah d'accord, ok. Et puis, bon, ton armée, ça sera l'armée chinoise du Hunan. Bah ouais, d'accord, etc. Bon. Sauf que vous pouvez bien imaginer que, évidemment, tous ces seigneurs de la guerre, ils sont très réticents évidemment à perdre des prérogatives, hein, donc, et puis ils ont l'armée, hein, leur propre armée qui est là. Donc c'est sans arrêt jusqu'en 1937, jusqu'au déclenchement de la guerre avec le Japon, c'est une continuelle bagarre avec les seigneurs de la guerre qui de temps en temps, ma foi, se révoltent, et puis il faut aller envoyer des troupes, puis finalement ça se finit par négocier, on finit quand même par s'envoyer quelques obus, il y a un certain nombre de morts, etc., etc. Enfin, tout ça, le problème ne fait pas un État. Hein. Tout ça ne fait pas un État centralisé avec, évidemment, une administration de partout à peu près la même, avec des gens qui obéissent à peu près aux lois et aux règlements qui sont édictés au centre, etc., etc. On a une espèce de collection de régions vaguement sous le contrôle du gouvernement central qui est à Nankin, donc qui est descendu un peu dans le milieu, disons, de la Chine, pas très loin de Shanghai, mais ça fait pas véritablement un pays. Alors, tout ça se termine par la guerre sino-japonaise entre 1937 et 1945. Guerre sino-japonaise, alors extrêmement compliquée, hein. Au début, c'est simplement la Chine et le Japon, puis après, avec l'entrée des Américains dans la guerre, à partir de 41, ça devient une guerre mondiale, hein, avec des financements américains, etc., etc., avec alors des problèmes institutionnels énormes, hein, donc parce que vous avez en fait trois gouvernements chinois à l'époque de la guerre sino-japonaise, plus un gouvernement japonais. Oui, donc c'est très compliqué. Alors quels sont ces trois gouvernements chinois? Vous avez d'abord le gouvernement de Chiang Kai-shek, hein, qui est toujours normalement, officiellement, la République de Chine, donc unité, bon, avec à Nankin, mais il doit s'en aller évidemment dans le centre, puisque les Japonais vont contrôler toute la façade sud et est du pays, donc il va se replier dans le centre de la Chine. Ça, c'est le premier. Le deuxième gouvernement, c'est le gouvernement des communistes, de Mao, hein, qui profite d'ailleurs, évidemment, de la guerre pour grignoter du territoire. Hein. Il va en 1937 contrôler quelques millions de personnes. En 1945, lors de la reddition des Japonais, c'est 100 millions de personnes qui sont sous le contrôle du gouvernement communiste. Hein. Un cinquième de la population. Hein. Donc vous voyez l'extension. Hein, au fur et à mesure que les Japonais s'en vont, bah, évidemment, hein, communistes intelligemment vont contrôler un certain nombre de pays. Et puis, troisième gouvernement, un gouvernement de collaboration. Eh oui, un gouvernement de collaboration. Alors avec un personnage lui aussi alors très très curieux, Wang Tingwei. Wang Tingwei qui est un personnage alors très curieux parce que c'était l'opposant de Chiang Kai-shek dans le Kuomintang à l'aile d'extrême gauche. C'était un type beaucoup plus à gauche, beaucoup plus radical et presque même allié au Parti communiste pendant plus longtemps même que Chiang Kai-shek, et qui finalement a décidé de créer un gouvernement pro-japonais qui contrôlait notamment justement Nankin, toute la région de Shanghai, avec une armée chinoise collaborationniste, hein, une espèce de milice, on pourrait dire. Hein. Donc vous voyez le tableau quand même assez complexe que l'on trouve à cette époque. Et enfin, pour finir, dernière époque, 45-49, hein, c'est la guerre civile entre de nouveau le Parti communiste et le Kuomintang. Voilà dressé, vous voyez. Globalement, la situation, on pourrait dire, à cette époque. Rentrons maintenant un petit peu dans les détails biographiques de ces différents personnages. Alors d'abord, Chiang Kai-shek. Je m'arrêterai en 1949, hein, et je parlerai ensuite de Mao, et puis je reprendrai de 49 à 1975-1976 un peu des éléments biographiques pour vous montrer précisément la complexité un peu des personnages. Alors, Chiang Kai-shek est né donc en 1887. Alors, dans une famille, disons, de la classe supérieure locale, hein, ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire les très grands notables locaux. Hein, ce ne sont pas donc des grands mandarins nationaux, hein, ce ne sont pas des grandes familles de mandarins, mais ce sont des gens qui jouent un rôle très important au niveau local. Alors, la mère de Chiang Kai-shek est une fervente confucianiste et qui d'ailleurs, ça va être un des traits particuliers de Chiang Kai-shek, ça va être quelqu'un qui va être toujours assez attaché à des idéaux confucianistes. Qu'est-ce qu'on entend par des idéaux confucianistes? Eh bien, c'est l'idée de loyauté. C'est lié de rigueur morale personnelle. C'est des espèces de, on pourrait dire, de kantiens, si on voulait faire un petit peu de philosophie, c'est-à-dire des gens pour qui l'attachement au fondement même de la société chinoise est extrêmement important. Hein. Loyauté à l'État, loyauté à la Chine, etc., sont des éléments qui sont extrêmement forts dans cette famille, donc attachée aux idéaux confucianistes. Ce qui est très intéressant chez ce personnage, c'est qu'il va faire des études, mais très rapidement, ce qui va l'intéresser immédiatement, c'est la carrière militaire. Et là, il est aussi dans la droite ligne de l'époque, hein, on vient de le voir. L'armée, hein, donc, pour des gens qui veulent changer la société chinoise, c'est une des portes d'entrée. Hein. L'autre porte d'entrée, c'est de faire des études, et notamment de faire des études à l'étranger. Hein. Il y a une espèce de voie pour des intellectuels ou pour des gens qui ont la chance de pouvoir, disons, faire des études, c'est soit la chose militaire, hein, parce que déjà, hein, on pense que si on veut se débarrasser des étrangers, il faut quand même qu'on ait une armée un peu sérieuse. Et puis, de l'autre côté, aller à l'étranger faire des études pour comprendre l'Occident et donc limiter, hein, ou prendre un certain nombre de choses. Limiter, ça ne veut pas dire mettre exactement, hein, le même régime en Chine. Hein, attention, hein, c'est toujours l'idée que, même encore aujourd'hui, on entend beaucoup de choses autour de ça. À partir du moment où les étudiants chinois vont aller en masse faire leurs études en France, par exemple, aux États-Unis, ils vont devenir pro-français, ils vont devenir pro-américains, ils vont complètement adopter, hein, le régime C'est absolument pas ça, on sait très bien, hein, que notamment toute l'histoire des luttes anticoloniales sont au contraire des gens, hein, à la tête des luttes anticoloniales, ce sont des gens au contraire qui ont été parfaitement éduqués à la métropole, qui connaissent très bien la métropole et la langue de la métropole, qui ont même un amour de la langue, de la littérature, de l'art de la métropole, mais qui n'empêche que ce qu'ils veulent, eux, c'est restaurer la nation dans leur pays. Et s'il faut lutter contre le pays qui vous a donné toute cette culture, etc., eh bien tant pis, hein, c'est pas ça qui compte. Il y a vraiment de ça dans ce mouvement, aussi bien des gens qui vont à l'étranger que des gens qui vont à l'étranger pour faire des études de médecine, de sciences, etc., ou les gens qui embrassent la carrière militaire. Ce qui est intéressant aussi, et alors qui paraît là aussi liaison dangereuse d'une certaine façon, ou liaison curieuse en tout cas, Chiang Kai-shek, oui, va partir au Japon pour faire des études militaires. Ça apparaît, il va d'abord commencer en Chine, puis ensuite il va profiter de bourses pour aller à l'Académie des militaires du Japon, et il va même servir pendant 2 ans dans l'armée japonaise. Ça nous apparaît quand même très très curieux, d'aller s'engager comme officier dans l'armée qui veut vous envahir. Pas du tout à l'époque. Pourquoi? Parce que le Japon, c'est à la fois une attitude très bizarre des Chinois, très curieuse, très ambiguë des Chinois vis-à-vis des Japonais. C'est pas psychanalytique, mais ça repose sur la réalité. Les Chinois détestent les Japonais parce qu'ils veulent envahir leur pays, mais en même temps, ils adorent les Japonais parce que c'est un exemple pour eux extraordinaire. Ils aimeraient bien faire comme les Japonais. Ils aimeraient bien faire comme les Japonais au sens où se moderniser, résister aux étrangers, envahir les autres, éventuellement, si on pouvait devenir un pays impérialiste, finalement, pourquoi pas, on n'est pas dans cette situation, mais bon, a priori, on ne sait pas. Bon, donc, si vous voulez, c'est très, très ambigu, si vous voulez, c'est un petit peu, si on veut faire des parallèles, la situation qu'il y a aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, où les Chinois détestent les Japonais, les Américains, moi j'étais le 11 septembre en Chine, je peux vous dire qu'ils étaient très contents, les Chinois, de voir les deux tours s'écrouler. Donc ils les aiment pas, en même temps ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller aux États-Unis, de faire des études, et même il y en a beaucoup qui reviennent pas, parce qu'ils trouvent que la vie finalement aux États-Unis n'est pas si mal, et parce que finalement ce qu'ils aimeraient être, c'est à la place des Américains. Finalement, c'est la question quand même relativement centrale. Donc, on voit bien ces rapports complexes de haine et de ce qu'on est souvent ce qui vous fascine, ce que l'on aimerait être, d'une certaine façon. Il y a quelque chose ici de relativement. Donc, il part au Japon et Chiang Kai-shek parlera toujours très bien japonais. Mais encore une fois, rien de mal. Il y a à l'époque des dizaines de milliers d'étudiants chinois qui apprennent la médecine, la littérature, etc. etc. Toute la philosophie étrangère va d'abord être traduite du japonais au chinois. Parce qu'en Chine, il n'y avait pas, et même la littérature, parce qu'il n'y avait pas les traducteurs en Chine capables de traduire tout ça. Donc les Japonais avaient déjà tout ça, ils avaient déjà organisé tout le truc pour traduire pratiquement l'ensemble de littérature et de la philosophie et de tout ce que vous voulez qui venait d'Occident. On va commencer à traduire tout ça. Nietzsche, Marx sera traduit du japonais. Imaginez ça. Donc, le Japon, faut avoir cette image quand même du Japon. On va au Japon parce que c'est là que l'on va pouvoir aller aux sources de la connaissance de l'Occident, mais aussi aux sources de la connaissance de comment résister aux étrangers, finalement. Toujours cette relation complexe de l'anti-impérialisme par rapport aux impérialistes. Si on veut résister à l'impérialisme, il faut être un peu soi-même, devenir un peu impérialiste d'une certaine façon. C'est-à-dire prendre à peu près les mêmes méthodes, les mêmes recettes pour résister. En même temps qu'il va au Japon, Il entre au parti qui va être en fait qui est le parti de Sun Yat-sen, qui lui-même va passer beaucoup de temps au Japon comme réfugié, hein, notamment vers après 1911, quand il va être obligé de partir de Chine parce que les seigneurs de la guerre récupèrent le pouvoir. Je voulais dire, donc voilà, là aussi, les réfugiés politiques, ça c'est imaginable, les réfugiés politiques chinois vont au Japon alors qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est comment résister au Japon. Ouais, ils sont sympas les Japonais finalement, hein. Vous voyez qu'ils sont, voilà, ils vont donner des tas de bourses. Hein. Alors pourquoi ils font ça les Japonais? Bah parce que dans leur idée, mais là ils se sont plantés évidemment. Dans leur idée, c'est que précisément, une intelligentsia japonisée va devenir une intelligentsia pro-japonaise. Bah pas du tout, pas du tout. Tous ces gens-là qui vont aller au Japon vont se révéler pour l'essentiel, au contraire, très très anti-japonais. Donc il entre au parti de Sun Yat-sen avec il y a une grosse section au Japon, hein, une grosse section au Japon, très puissante, très forte, très organisée, etc., etc. Il revient évidemment au moment de la juste avant la révolution de 1911, il participe un peu à la révolution de 1911. En fait, c'est une révolution, c'est plutôt un coup d'État, hein. Il n'y a pas beaucoup de, morts dans l'affaire. Mais évidemment, là aussi, il ne peut pas. Il est déçu évidemment par ce qui se passe. On l'a vu tout à l'heure. Il part lui aussi en exil. Il part de nouveau au Japon pour un temps. Puis après, il s'installe à Shanghai. Et là, il y a une phase qui est très curieuse de la vie de Chiang Kai-shek, parce qu'il va s'installer à Shanghai et il va avoir des rapports très étroits avec justement ce que l'on appelle la bande verte dont je parlais tout à l'heure. Là aussi on est dans les liaisons complexes et dangereuses et tout ce que l'on veut. La bande verte, c'est à la fois un groupe de voyous, hein, une société secrète de voyous qui s'organise la prostitution, le jeu, la drogue, etc., etc. En même temps, c'est eux qui organisent la police française dans la concession française. Hein, voilà. Donc le chef de la bande verte, c'est aussi le sous-chef de la police, de la concession française. Et tout ça est très très mélangé. Et manifestement, bon, on ne connaît pas tous les détails. Manifestement, il est lié à cette bande verte. Alors, ce que l'on sait du personnage à cette époque, c'est que c'est un peu ce que l'on saura au niveau du caractère, disons, global du personnage. C'est que c'est déjà quelqu'un qui est extrêmement loyal. Par exemple, il va sauver Sun Yat-sen à plusieurs moments de sa vie, parce qu'il est pourchassé à la fois par des opposants à l'intérieur du Kuomintang, par un certain nombre de puissances étrangères, mais aussi par les seigneurs de la guerre, ou un certain nombre de seigneurs de la guerre. Donc cette idée de loyauté, hein, va être toujours extrêmement fort chez Chiang Kai-shek. On va le voir, c'est tout à fait différent évidemment chez Mao, où il est loyal envers une seule personne qui est lui-même. Hein. Donc, ce qui est assez évidemment pratique. Là, on sait qu'il va, au risque de sa vie, sauver un certain nombre de gens à qui il a donné en fait sa confiance. Alors, que fait Sun Yat-sen et le Kuomintang à cette époque-là? Eh bien, à partir donc de 1923-1924, il développe une armée, hein, de reconquête du territoire chinois avec le soutien du Comintern. Hein. Il y a des gens du Comintern qui viennent dans le sud de la Chine. On sait aussi que Sun Yat-sen d'ailleurs et Chiang Kai-shek ont passé plusieurs mois à Moscou à cette époque-là, hein, donc des rapports très étroits où Chiang Kai-shek va étudier, Sun Yat-sen aussi vont étudier un peu comment ça marche, le système soviétique de l'époque. Il va envoyer son fils à Moscou, hein, comme souvent à l'époque, on mariait très jeune, hein, les gens, c'était des mariages arrangés, alors bon, on faisait un fils, enfin on faisait des enfants, parce que bon, comme ça on faisait des enfants, pas très important, mais quand même, il avait un fils, qui va avoir d'ailleurs lui aussi une histoire assez particulière, on le retrouvera tout à l'heure. Il laisse son fils à Moscou. Ça sera d'ailleurs pas une très très bonne idée, parce qu'une fois qu'il va rompre avec le Parti communiste chinois en 1927, eh bien, on va lui garder en otage son fiston pendant 10 ans. Avec comme moyen de pression, évidemment, en 1937, Staline accepte finalement de le libérer parce qu'il y a de nouveau une alliance avec le Parti communiste contre les Japonais. Mais entre-temps, Tianquo, donc son fils, va finalement pas trop se trouver mal à Moscou, puisqu'il va apprendre le russe, etc. Puis il va se marier avec une russe, hein, assez curieux, pour quelqu'un qui sera ensuite considéré comme réactionnaire, etc., etc. Ses petits-enfants seront à moitié soviétiques, on pourrait dire, en tout cas, à moitié russes. Il reviendra, en fait, aussi bien Sonia Tsen que lui, avec l'idée que, finalement, le système soviétique, c'est pas très très bon pour la Chine. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas avec un grand enthousiasme. Alors, ils sont très enthousiastes par vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis de l'armée, machin, tout ça, ça leur paraît, la discipline, tout ça, ça leur paraît très très bien. Le système économique leur paraît quand même un peu moins bien. Ils disent, bon, ça, c'est pas pour nous, on va sans doute faire autre chose. On sait pas trop, mais d'après ce que l'on sait à l'époque déjà, il y a l'idée quand même que l'alliance avec le Parti communiste, à un moment donné, faudra l'arrêter, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de communiser ou de soviétiser la Chine. Quand il revient, il crée une académie militaire extrêmement importante à l'époque, une académie militaire qui est destinée donc à former des officiers, des soldats, etc., pour la reconquête du territoire chinois. Alors, année très importante pour lui, c'est la mort de Sun Yat-sen en 1925. Alors la mort de Sun Yat-sen en 1925, c'est un moment très important parce qu'il faut un nouveau chef au Kuomintang et assez rapidement, quelques mois en fait, Chiang Kai-shek va réussir à, récupérer l'héritage, on peut dire, de Sun Yat-sen, non seulement parce qu'il était un de ses proches, etc., mais aussi parce qu'il est proche de la famille la femme de Sun Yat-sen. La femme de Sun Yat-sen va épouser une des filles Song. Alors une des filles Song, vous avez jamais entendu parler des filles Song, c'est dommage parce que c'est vraiment des personnages extrêmement importants. Cette famille Song commence en fait par le départ au milieu du 19e siècle d'un monsieur Song surnommé Charlie Song, un prénom américain. Il part aux États-Unis, il est d'une famille déjà quand même assez huppée, assez à l'aise, etc. Il va faire des études aux États-Unis. Il va se convertir au méthodisme, religion très importante aux États-Unis, et il va revenir en Chine à la fois comme vendeur de Bible, enfin vendeur, producteur, imprimeur de Bible, etc. Il fait aussi des affaires dans la banque, etc., en liaison avec les Américains, évidemment, parce que être méthodiste, ça vous ouvre très grandes les portes des relations avec les Américains. Il faut savoir que les missions américaines, aujourd'hui comme hier, c'est un état dans l'état aux États-Unis. Hein. C'est une chose dont on ne parle pas obligatoirement bien beaucoup. On parle beaucoup des évangélistes, mais les méthodistes aussi sont une puissance très forte. Il y avait des méthodistes dans le monde entier, et la puissance politique du méthodisme est extrêmement forte. Pression de ces églises sur les hommes politiques, par exemple, c'est extrêmement, extrêmement important. Et cette famille, donc, Song, va devenir à la fois très riche, mais va devenir aussi assez influente dans tous les milieux de la finance, du protestantisme, de la politique, etc., etc. Et ce monsieur Song va se marier avec une dame et ils vont avoir 6 enfants. Et cette dame, d'ailleurs, c'est assez amusant, cette dame est en fait une descendante d'un jésuite, d'un des premiers jésuites chinois convertis sous les Ming. Vous voyez, donc il y a des trucs comme ça, des familles quand même assez particuliers, qui étaient un fonctionnaire très important, et qui a aidé un certain nombre de jésuites à traduire en latin, un certain nombre de classiques, etc. Alors bon, c'est une distance importante, hein, puisque c'est aux alentours de 1570, je crois qu'il est devenu 1560, 1570, mais enfin, c'est une descendante quand même pour vous montrer que, une espèce de, quand même, de famille qui se perpétue, etc. Et alors, c'est ce couple va avoir 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Alors les garçons vont être relativement célèbres. Les 3 vont être des hauts fonctionnaires, hein, du gouvernement du Kuomintang, etc. Et notamment celui qu'on appelle TV Song, hein, ils aiment bien, très américanisé, ils aiment bien faire comme les Anglais, hein, comme les Américains, JFK, vous voyez, c'est ce genre de truc. Donc, TV Song, ou Sung, hein, on met souvent deux O comme ça, qui a fait ses études à Harvard, qui sera ministre des Finances, hein, dans les années 30 et 40, gouverneur de la banque centrale, extrêmement important, notamment, bon, c'est une anecdote, mais il va discuter, il va rencontrer en 1937 Hitler et les dignitaires nazis, pour essayer d'organiser une alliance contre les Japonais, entre les Chinois et les Allemands, les Allemands nazis. Vous imaginez, c'est quand même un truc assez curieux quand même, hein, voilà. C'est lui qui va aller discuter, hein, de ça avec les dignitaires nazis. Donc les frères, bon, relativement importants. Mais alors les sœurs, là c'est quelque chose de fort pour les trois sœurs. Song Haiding, qui naît en 1890 et qui va mourir en 1973, va épouser l'homme le plus riche de Chine, tout simplement. Hein, qui s'appelle Hage Kung, hein, Kung en fait, bon. K-U-N-G, vous trouverez ça, qui va être aussi ministre des Finances, etc., qui va être en même temps l'homme le plus corrompu de Chine, hein, dans les années 30 et dans les années 40. C'est un des responsables indirects dans la chute, en fait, de Chiang Kai-shek et du Kuomintang, en raison de ses magouilles financières, etc. La deuxième, Song Tingling, 1893-1981, va se marier avec Sun Yat-sen. Elle sera très jeune, hein, elle va se marier, elle aura 20 ans, lui sera déjà un âge relativement canonique, c'est un mariage sur le tard, donc quand même il se marie avec le premier président de la République de Chine, ce qui n'est pas rien quand même, avec le père de la République de Chine, et elle va finir comme présidente de la République populaire de Chine quand même, c'est-à-dire elle va devenir, elle va rester sur le continent quand Chiang Kai-shek va partir à Taïwan, et elle va être présidente de la République et un personnage très important de... Bon. Troisième sœur, Song Mengling, 1898-2003, trois siècles, elle connaîtra quand même, c'est pas rien, hein, cette dame, qui est tout simplement la femme de Chiang Kai-shek. C'est-à-dire que Chiang Kai-shek, en 1927, il connaît la famille Song depuis très longtemps, hein, tout le monde connaît la famille Song dans un certain milieu social, il va draguer, on peut dire, Hailing, ça va pas se faire, bon, elle est pas très, etc. Bon, mais ça marche avec Song Mailing, donc, et il va s'allier, en fait, avec cette famille. C'est très important, hein. Alors, c'est très important pour comprendre, évidemment, la stratégie. On voit bien que, ici, Chiang Kai-shek, et contrairement à Mao, là aussi, on le verra tout à l'heure, c'est un personnage qui est un vrai homme politique, on pourrait dire, relativement classique, hein. C'est un type qui calcule, c'est un type qui réfléchit, c'est un type qui planifie, hein, c'est un type qui a, on pourrait dire, c'est un type normal, hein, même si c'est un peu galvaudé aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, on va s'allier à des gens, trouver des formules pour faire avancer un petit peu, peut-être qu'il y avait de l'amour, etc., bon, on sait pas trop, hein, tout ça, il y a une très mauvaise biographie en France, celle de cette dame d'ailleurs, hein, qui est très géniale, etc., etc., alors c'était une femme, bon, assez épouvantable quand même, et très très qui aime beaucoup l'argent, qui était aussi responsable de beaucoup de choses, etc. Bon, mais c'est évidemment très important pour lui parce que ça lui ouvre les portes de l'étranger, ça lui ouvre les portes des États-Unis, hein. Et il va même finir par se convertir au méthodisme lui-même. Alors par opportunisme ou pas, on ne sait pas trop. En même temps, bon, il a toute une réflexion sur le confucianisme et le christianisme, etc. Bon, il va expliquer dans son journal notamment, hein, pourquoi il se convertit, pas du tout pour des affaires, par opportunisme, parce que vraiment il y croit, il trouve que finalement le christianisme c'est l'aboutissement du confucianisme, bon, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est très important, hein, c'est-à-dire que Chiang Kai-shek, contrairement à Mao, c'est un personnage de l'extérieur. C'est un personnage qui parle japonais, c'est un personnage qui parle un peu anglais, pas très bien anglais, mais qui parle un peu anglais, qui va s'allier aux États-Unis, parce que la famille Song, c'est vraiment une famille qui peut ouvrir toutes les portes des États-Unis par le méthodisme, par les affaires, par... j'ai entendu juste avant de venir un enregistrement d'un discours de Song Meiling au Congrès américain en 1943. Faut voir l'accent, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'elle parle peut-être, elle parlait peut-être mieux anglais que chinois. Donc ils font partie vraiment de ces gens-là, de l'intelligentsia, de la bourgeoisie japonaise américanisée. Et évidemment, c'est absolument central, hein, dans cette situation où les puissances étrangères, évidemment, ont tendance plutôt à faire confiance à des gens qui parlent la langue, qui, ma foi, ont une ouverture à l'extérieur, qui ont des bonnes manières, hein, etc., etc. Là, vraiment, des choses qui sont très différentes du personnage de Mao. Ce personnage, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il se marie, il conquiert la Chine peu à peu, il va réussir à déloger les communistes des principales villes chinoises et à les contraindre à l'exil dans des régions éloignées des grandes villes, et il va être, à partir donc de 1928, véritablement le maître, hein, avec plein de guillemets, on les a vus tout à l'heure pourquoi, de la Chine. Il va essayer de mettre en place une vraie politique de réforme. Il va réunifier donc le pays, je l'ai dit tout à l'heure. Il va mettre en place un système légal et un système pénal moderne, hein. Il va, par exemple, adopter une loi sur le mariage qui permet le divorce, qui interdit le concubinage, la polygamie, etc., etc. Il va mettre en place un système bancaire moderne. Il va beaucoup investir dans les transports, dans les hôpitaux, dans l'éducation. Il va imposer la langue nationale, hein, ce qu'on appelait le kouyu à l'époque, pour que tous les Chinois puissent avoir une langue, hein, en laquelle ils puissent se parler, etc., etc. Le grand problème, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, de Chiang Kai-shek, c'est évidemment son incapacité à appliquer sa politique de réforme. Pourquoi ? Parce que il a beau édicter tout ce qu'il veut, les régions qui sont contrôlées par les étrangers appliquent ou pas les règlements et les réformes, les seigneurs de la guerre appliquent ou pas les réformes, c'est un peu comme ils veulent, les Japonais n'en parlons pas, les communistes n'en parlons pas, etc., etc. C'est-à-dire ce brave Chiang Kai-shek est chef de l'État, mais d'un État qui lui échappe très largement. Il lui échappe très largement aussi parce que le Kuomintang est un parti de compromis. C'est un parti qui regroupe des gens très différents, en fait. Parce que l'idée de Chiang Kai-shek, contrairement là aussi à Mao, ce n'est pas de créer un parti, ma foi, avec un chef, une ligne, et puis c'est tout. C'est de créer un parti de rassemblement. Hein, de rassembler finalement tous les gens qui veulent bien, ma foi, changer la Chine. Mais ce parti, Le problème, c'est qu'il va rassembler disons, l'extrême gauche non communiste, pour dire les choses simplement, jusqu'à l'extrême droite, tout ce que vous voulez, y compris même d'ailleurs des fascistes, hein, on créera les chemises bleues qui prendront comme idéal très nommé, très très clairement, hein, Mussolini, etc., etc., voire même certains au Kuomintang qui admiraient Hitler, hein, pour sa capacité, hein, etc., à contrôler le pays et à impulser des changements, etc., etc. Donc la situation est pas très bonne pour évidemment un réformateur. Comment vous voulez réformer un pays qui d'abord vous échappe pour l'essentiel, puis deuxièmement s'appuie sur un parti où finalement les intérêts sont complètement contradictoires. Et Chiang Kai-shek sera incapable évidemment de gérer tout cela. Il sera aussi d'autant plus incapable que pour précisément avoir un minimum d'efficacité, il va s'appuyer sur des groupes de gens qui sont proches de lui, et notamment la famille Song dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette famille Song, évidemment, elle va être extrêmement présente, hein. Dans le même gouvernement, vous avez H.H. Kung, là, qui est ministre de l'Industrie, je crois. Vous avez T.V. Song, donc le beau-frère, qui est ministre des Finances. Et puis, vous avez aussi quelques affiliés, des amis, etc., etc. Donc, pour avoir un minimum d'efficacité et de contrôle de la situation, on va s'appuyer sur un certain nombre de personnages de ce type-là. Lui-même, ce qui est intéressant, c'est que Chiang Kai-shek n'est pas un type intéressé. C'est pas un type qui s'intéresse à l'argent, qui est un... Bon, ça l'intéresse pas tellement. Hein. C'est un type qui est très rigoureux, qui mangeait peu. C'est un ascète, hein, pas très rigolo, hein, je vous l'accorde, hein, c'est pas un franc rigolard, c'est pas effectivement Mao, hein, on va le voir, mais en même temps, bon, c'est un type qui a une certaine éthique. Bon, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, bon, qui a un attrait pour le pouvoir, hein, il aime évidemment le pouvoir, mais l'argent en tant que tel, ça l'intéresse pas. Tandis que les gens à côté de lui, alors là, ça les intéresse énormément. Hein, ça les intéresse énormément, et on peut dire que une des raisons de l'échec, on pourrait dire, de Chiang Kai-shek, c'est son incapacité évidemment à d'imposer globalement un pouvoir, d'imposer une politique, mais aussi de limiter les appétits des gens qui lui sont alliés. Ce qui va perdre Chiang Kai-shek, une fois que la guerre sera gagnée contre les Japonais et faire perdre la guerre contre les communistes, ça va être l'inflation due à des magouilles, à des choses vraiment pas claires, à la corruption, évidemment extrêmement, extrêmement fort, et puis à son incapacité de réformer les choses, c'est-à-dire que globalement, les paysans continuent à ne pas avoir des terres. On parle de réforme agraire depuis 1928, mais rien n'est fait évidemment en 1945. Il faut dire qu'avec la guerre, bon, avec les Japonais, c'est pas très facile de faire bien évidemment une réforme agraire, etc., etc. Donc une situation où finalement rien n'aura été fait, où les paysans seront toujours dans une situation catastrophique, et pour finir, bien évidemment, les paysans vont peu à peu se tourner vers Mao plutôt que vers autre chose, pour ceux qui vont se tourner vers quelque chose, et même les intellectuels, et c'est cela où les choses vont sentir très mauvais au bout d'un moment du côté du Kuomintang, c'est que même les intellectuels, un certain nombre d'hommes politiques, progressistes, vont se détourner de Chiang Kai-shek pour aller vers Mao en disant que finalement le parti communiste, c'est peut-être pas l'idéal, mais en tout cas c'est mieux que le Kuomintang, et il vaut mieux se tourner vers Mao. Et d'ailleurs Sun Tingling, dont je parlais tout à l'heure précisément, ça va être sa logique à elle, hein, c'est assez amusant parce qu'il y a une des filles Song qui va rester sur le continent, il y a une des filles Song qui va partir à Taïwan avec son mari, donc Chiang Kai-shek, et une autre qui va partir aux États-Unis. Comme ça, vous voyez, on a à peu près, on tient à peu près les choses. C'est d'ailleurs beaucoup de grandes familles chinoises qui vont faire comme ça, d'ailleurs, en 1949. Hein. On met un peu des œufs, pas dans le même panier, parce qu'on ne sait pas bien si le panier est troué ou pas troué. Et voilà. Donc c'est plein de familles qui sont comme ça, hein, de cette époque-là. Bon. Pour montrer un peu comment les gens sont en même temps complètement un peu perdus, hein, dans ce chaos quand même, qui est très... Alors, Tchaïkovski donc en 49, hein, je reprendrai le cours de la chose tout à l'heure, va s'installer à Taïwan. Passons maintenant à Mao. J'ai déjà dit beaucoup de choses, c'est sans doute plus vite, on pourra mieux se concentrer peut-être sur le personnage. Et puis on pourra le décaler par rapport peut-être à ce qu'on vient de dire sur Mao. Alors, Mao, personnage très curieux, on pourrait dire. Bien entendu, très complexe. On n'a pas fini quand même de parler. Il y a beaucoup d'ombre, hein, dans sa vie. On ne sait pas encore bien trop ce qu'il a fait à certains moments. Enfin, voilà, tout ça est très 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 sujet à controverse. Ce que l'on sait, c'est que il naît. Alors autant donc on vient de voir Chiang Kai-shek dans une région riche, dans une famille assez huppée, etc. Lui, Mao, alors c'est pas un paysan pauvre, contrairement à ce qu'il a toujours dit et toujours fait croire, c'est des paysans plutôt aisés, mais ce sont des paysans, hein, ce sont pas du tout des intellectuels ou des notables locaux, dans le fin fond du Hunan, donc vraiment dans l'intérieur des terres. Et lui, alors, si on peut regarder un petit peu les influences qu'il a subies, il a subi plutôt des influences bouddhistes, et non pas confucianistes ou confucéennes. Sa mère, bon, il détestait son père apparemment, mais sa mère était bouddhiste et transmis un certain intérêt pour le bouddhisme. Il s'est jamais très intéressé par le confucianisme. Le confucianisme, pour lui, a toujours apparu comme quelque chose de justement trop rigide, trop rigoureux, hein, trop, disons, contraignant trop, hein, les mouvements, on peut dire, de l'individu. Alors, il est frappé par les révoltes paysannes de l'époque, hein, de l'époque de sa jeunesse. Hein, c'est quelque chose qui va beaucoup le marquer. Hein, il a une espèce de il aime beaucoup les épopées comme ça, de révoltes paysannes, de gens qui se soulèvent, etc. C'est un type qui aimait bien ça, qui va continuer, on va le voir, à bien aimer ça. Il va faire des études dans la capitale du Hunan qui s'appelle Changsha, et il est en 1911, comme tous les Chinois, extrêmement déçus, hein, par ce qui s'est passé en 1911-1912. Il avait lu lui aussi, il va continuer à les lire un peu d'ailleurs, Rousseau, Montesquieu, les choses sur la démocratie, le libéralisme, etc., etc. Et lui aussi, comme pratiquement toute l'intelligentsia de l'époque, va virer sur d'autres choses, hein. Encore une fois avec cette idée que le libéralisme, pour l'instant, c'est pas pour la Chine. Il va rentrer à l'école normale de Changsha entre 1912 et 1919. Il va faire des études, après il va partir, il va revenir, etc. Notamment en 1919, il va devenir pendant quelques temps, il va s'occuper de la bibliothèque de l'université de Pékin. Alors à l'époque, qu'est-ce qu'il va lire? C'est très intéressant de voir sa formation intellectuelle. Il va être vraiment extrêmement lié à toute l'intelligentsia de cette époque-là, qui va lire tout et n'importe quoi. C'est l'éclectisme total. Hein. Ce qui est important, c'est que ça soit nouveau, c'est que ça soit occidental, c'est que ça soit révolutionnaire, c'est que ça change complètement les perspectives. Hein. Il est totalement dans ce milieu-là, qui va lire Nietzsche, qui va lire tout ce que vous pouvez imaginer, qui va lire Kropotkin, par exemple, Kropotkin, Tolstoï, ça va être des gens qui vont être extrêmement lus. Il va y avoir à l'époque de grands débats sur donc l'anarchisme, sur le végétarisme, hein, qui serait une façon de régénérer la nation chinoise. Arrêtons de manger de la viande, ayons une éthique personnelle. Enfin, il y a plein de choses qui se développent à cette époque-là autour de ça. Il y a aussi l'introduction des exercices physiques. Vous savez que dans la tradition chinoise, on n'aime pas beaucoup le sport et les exercices physiques. Là, au contraire, une vie saine, boire de l'eau, pas boire d'alcool, l'alcool, ne pas fumer. Il y a des grands débats autour de cette idée de régénérescence de la nation chinoise en même temps que de régénérescence des Chinois. Hein. Parce que toujours avec cette idée que les Chinois, c'est des barbares encore d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire là, il y a une vraie critique de la tradition chinoise là, hein, qui est très forte. Hein. Bon, qui est beaucoup moins forte hein, chez Chiang Kai-shek, hein, il y a des éléments, hein, on va le revoir même quand on parlera tout à l'heure de Taïwan, mais c'est moins radical. Hein, là, c'est vraiment très bien que encore une fois, hein, Chiang Kai-shek aussi soit un type très rigide, hein, qui fume pas, qui boit pas, qui est un type assez sérieux là-dessus. Donc il va lire tout ça. Et alors, une particularité aussi quand même de Mao aussi, c'est qu'il va continuer, et toute sa vie, il va en même temps, ça c'est les contradictions, hein, toujours être complètement passionné par la littérature épique chinoise. Hein. Il y a une tradition des romans de cap et d'épée, hein, mais des romans de cap et d'épée qui sont des vrais romans sérieux, si vous voulez. C'est comme si Proust avait écrit des romans de cap et d'épée, hein. C'est pas des petites historiettes comme ça, hein, c'est des vrais trucs de littérature qui font 3000 pages, des sagas pas possibles, avec toujours des histoires de bandits qui se révoltent contre l'empereur, ou au contraire qui se révoltent pour soutenir l'empereur, qui se sacrifient, machin, etc. Une espèce de... avec cette idéologie du chef, hein, avec le chef qui est très, très, très important. Et on sait qu'à l'époque, il est aussi extrêmement attiré par ce que l'on pourrait dire la littérature individualiste, hein, c'est-à-dire l'idée, hein, il y a des écrits là-dessus, l'idée que l'histoire est dominée par des surhommes, par des hommes providentiels, hein, qui peuvent tout se permettre, hein, qui n'ont pas de règles. Ça, c'est quelque chose qui va extrêmement le marquer, hein, et d'ailleurs, il va se comporter de plus en plus comme ça, cette idée que, finalement, à partir du moment où on est un chef, un leader, hein, on n'a pas besoin d'avoir de limites parce qu'on a une capacité à être en osmose avec le peuple, hein, naturellement, qui fait que vous n'avez pas besoin de passer par l'institution, par l'organisation, etc. Non, il y a une espèce de mystique, si vous voulez, un peu comme dans le populisme, hein, cette idée que le chef, finalement, il n'a pas besoin d'être élu, on n'a pas besoin de l'acclamer, même à la limite. Hein. Le chef a une le roi, comme le roi finalement. Hein. C'est pareil, dans la tradition française, le roi, une espèce de personnage comme ça, bon, il est roi parce que voilà, il a un lien particulier avec son peuple, hein, avec les sujets. Hein, bon, il y a cette idée qui est très forte, hein, qui est une idée qui est aussi très chinoise, hein, que l'on retrouve dans la tradition impériale chinoise, la tradition mais aussi des brigands, hein, c'est pareil, des grandes révoltes paysannes, etc., etc. On avait parlé de la révolte des Taiping l'année dernière, hein, qui éclate au milieu du 19e siècle, et voilà, un paysan qui se dit tout d'un coup, enfin un artisan plus exactement, qui se dit tout d'un coup empereur, qui va restaurer l'empire, etc., etc. Bon. Voilà, c'est très quelque chose dans la tradition, je dirais, c'est très dans le cadre mental, je dirais, politique chinois. Ce qui est aussi, alors bon, on dit qu'il est anarchiste, bon, c'est à des époques, enfin en tout cas il lit les anarchistes, mais justement les anarchistes individualistes, hein, c'est-à-dire, voilà, on va mettre une bombe, il ne mettra pas de bombe, enfin l'idée de on va mettre une bombe, on peut tout se permettre d'une certaine façon, parce que on est des individus conscients, hein, qui nous savons ce que l'on peut faire, hein, pour finalement changer les choses, et voilà, etc., etc. Mais par contre, comme vous le voyez, très peu de rapport avec l'étranger. Hein. C'est un type qui ne quittera pratiquement pas la Chine. Hein. Quasiment pas. Il va toujours refuser, hein, d'aller en URSS avant, très tard, hein, avant qu'il prenne le pouvoir, etc. Hein, il ira une fois, hein, je crois. Bon, il n'ira pas aux États-Unis, il va juger nulle part. Il ne parlera aucune langue étrangère, c'est tout juste si c'est le chinois, parce qu'en fait il parle un dialecte du Hunan qui est très difficile à comprendre. Il avait d'ailleurs souvent des traducteurs, parce que les types dans des réunions ne comprenaient rien ce qu'il disait, donc des fois c'était un peu gênant quand même. Donc vous voyez, personnage complètement à la fois révolutionnaire, comme vous le voyez, Et puis complètement chinois, complètement etc. Dans son élément, dans son jus, on pourrait dire. Hein. Il mangera toujours que de la cuisine du Hunan. Etc. Enfin, c'est un personnage vraiment totalement grégaire, on peut dire, hein, d'une certaine façon. Bon, donc complètement différent par rapport à la logique que l'on vient de voir chez Chiang Kai-shek. Alors, en 1921, il participe à la création du Parti communiste à Shanghai. Hein. Mais alors, encore une fois, c'est trois pelés, quatre tondus, comme on dit. Et il est représentant du Parti communiste chinois dans le Hunan. Bon, comme il est tout seul, c'est assez facile faire des réunions, hein, etc. Il va vaguement faire un peu de propagande pour faire adhérer deux, trois types, et c'est pas tellement ce qui l'intéresse. Il faut bien savoir que c'est pas un personnage qui est un acteur au sens quelqu'un qui agit, hein. C'est quelqu'un qui agit peu, finalement. Il fait agir les gens. Il intervient, il écrit, il va dire à un type, tiens, il faudrait faire ça, etc. Mais contrairement à Chiang Kai-shek, qui va être militaire, lui, hein, qui est militaire et qui va prendre en main l'armée, hein, c'est lui qui va diriger les actions, etc. Lui, pas du tout. C'est un type qui regarde les choses de loin. Hein. C'est un type qui va quasiment pas faire de discours dans sa vie, hein, de discours, devant 10 000 personnes, 20 000 personnes. Ça, c'est pas son truc, hein. Il assiste vaguement à quelques réunions, et encore, des fois il vient à une réunion, après il s'en va, il revient, enfin, voilà. C'est pas un homme politique, je dirais, classique, hein. C'est un espèce de type, bon, qui deviendra après un espèce de dictateur lointain, hein, et qui sera dans son lit. On raconte qu'il était, en fait, il passait ses journées dans son lit. Il avait un immense lit. Avec plein de bouquins, de plein de trucs, et puis il écrit des machins, il reçoit des types. Des fois, il sortait pas de chez lui, hein, pendant une semaine. Hein. Alors bon, il y avait quelques petites jeunes filles qui venaient le distraire quand même, bon, etc. Mais notamment des infirmières, comme il est bien connu. Mais un type assez peu. Il n'avait pas cette chance à cette époque-là. Hein, il n'était pas encore personnage évidemment important. Mais tout ça est déjà en filigrane dans ce qui se passe. À cette époque-là. Alors, il agit quand même, il s'agite un petit peu, mais il dirige plutôt les gens, notamment quand il apprend qu'il y a un mouvement paysan quelque part, de protestation. Il va voir ce qui se passe, il prend quelques contacts, il dit aux gens, ouais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc., etc. Bon. Mais en tout cas, lorsqu'il commence à rentrer dans le Parti communiste, ça lui plaît beaucoup parce qu'il a l'impression d'avoir trouvé en fait la forme d'action qu'il va permettre justement de participer au renouveau de la Chine. Il trouve que le parti communiste, le parti léniniste, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il faut un parti agitateur, hein, un parti qui violent. Hein, il va découvrir à l'époque là qu'il aime bien la violence finalement. Il va assister à des scènes de révolte, des exécutions même de paysans riches, etc. par des agitateurs communistes, etc. Et il va trouver qu'il aime. Et à cette époque là, il commence à développer cette idée qu'il lui faut un parti et un parti qui va exercer une violence sur le pays pour le réunifier de force. C'est-à-dire que cette idée que, il doit y avoir un parti de masse, mais avec à sa tête des activistes, quelques-uns, un certain nombre de gens, et c'est comme ça qu'on va pouvoir restaurer la puissance de la Chine. Il va beaucoup travailler avec le Kuomintang à l'époque, d'ailleurs, parce que, bon, il trouve que le parti communiste chinois, c'est bien, mais c'est pas encore un vrai parti. Lui, ce qu'il aime, c'est les bons gros partis, etc. Le Kuomintang, allié à l'époque avec le parti communiste, lui parlait beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il se fait engueuler à certains moments, hein, il y a des textes là-dessus, en disant, bah, ouais, c'est bien beau, mais tu travailles pour le Kuomintang, tu travailles pas pour le parti. Alors, il explique, oui, mais enfin, bon, etc., etc. Bah. Alors, les choses se passent relativement bien avec le avec le Kuomintang jusqu'en 1927, à partir du moment où il y a rupture, hein, Chiang Kai-shek donc, et le parti se fâche. Chiang va d'ailleurs massacrer un certain nombre de communistes, etc. etc. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va se réfugier, comme un certain nombre de communistes, dans le Tiangxi, une région difficile d'accès au sud du pays, dans des bases, hein, dans des bases paysannes. Alors, il s'est toujours intéressé aux paysans, hein, mais là, il va être obligé de s'intéresser encore plus aux paysans. Entre 1927 et 1934, il se trouve dans cette région et il va considérer que, ben, ma foi, les villes, c'est perdu pour le parti, que ce qu'il faut, c'est créer des bases de guérilla, en tout cas, même si le mot guérilla n'est pas encore vraiment prononcé, enfin des bases, disons, de résistance dans des régions difficiles, qu'il faut avoir une organisation quand même assez souple parce qu'on est dans des situations difficiles. Et jusqu'en 1934, en fait, il est en conflit avec le parti parce que le parti n'a pas du tout cette image-là. Lui, le parti, dont un certain nombre de gens vont d'ailleurs le rejoindre au Tiangxi, ont une vision tout à fait différentes. Eux, pour eux, ce qui est important, c'est de reconstituer un parti très bien organisé, avec une hiérarchie, avec un truc, avec un etc. Et Mao, par rapport à ça, commence déjà à considérer que le parti, c'est très très bien, mais à condition que ça ne devienne pas une bureaucratie, hein, parce que une bureaucratie, du coup, on ne peut pas l'agiter, hein. Lui, dans son idée, c'est un parti qui est un parti d'agitateur, hein, un parti qui bouge sans arrêt, un parti qui ne se fixe pas, qui ne se stabilise pas, hein. Ça, c'est une idée, bon, qui a à rejoindre avec les lectures dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne veut surtout pas une organisation institutionnelle, hein. L'institution, c'est pas bon. Parce que l'institution, par définition, ça va fixer les choses, ça va ralentir les choses, et la transformation de la Chine ne pourra pas se faire. Il y a cette idée révolutionnaire, souvent on dit, bon, Mao, est-ce que c'est un révolutionnaire ou un nationaliste? Les deux idées sont extrêmement proches, il n'y a pas de différence. Il faut restaurer la nation chinoise, pour restaurer la nation chinoise, il faut faire la révolution, mais cette révolution, elle ne peut pas être institutionnelle, elle doit être constante, elle doit être permanente. À tout moment, on doit pouvoir changer l'orientation. Autrement, les choses retombent et on n'avance pas. Donc, en ce sens-là, Mao est un dictateur totalitaire. C'est un personnage qui est très directement un chef d'un régime totalitaire. Ça va s'accentuer, hein, évidemment, à travers les années, notamment au moment où il va prendre le pouvoir. Mais déjà, à cette époque-là, il y a des débats dans le parti où lui met en avant cette idée. La grande chance de Mao aura beaucoup de chance dans sa vie, sa grande chance, c'est que Chiang Kai-shek réussit à déloger le parti du Tiangxi. C'est-à-dire que Mao n'était pas du tout en 1934 chef du parti, hein, il était même considéré un peu avec suspicion même parmi les chefs du parti parce que précisément il n'était pas dans la ligne, hein. Mais 1934 c'est la débandade, hein, c'est la longue marche, hein, qui a duré jusqu'à 1935, et là évidemment ça part dans tous les sens, hein, on part à l'aventure, on se fait massacrer certaines colonnes par le Kuomintang, mais aussi par des brigands, etc., etc. C'est une catastrophe, hein. On part avec 100 000 personnes, on finit avec quelques milliers, hein, de soldats, et on s'installe au bout d'un an dans une autre base, un peu plus au nord, hein, de la Chine, enfin quelques milliers de kilomètres dans le nord. Mais là, entre-temps, Mao a pris le contrôle du parti. Pourquoi ? Bah parce que là, l'appareil du parti a complètement disparu. Les gens se sont réfugiés à Moscou, se sont réfugiés clandestinement à Shanghai. Il n'y a plus de chef d'une certaine façon. Et c'est celui qui est capable de prendre le pouvoir sur le terrain avec la guérilla qui est capable de prendre le parti. Le parti, donc, il ne lâchera plus à partir de 1935 jusqu'à sa mort, jusqu'en 1976. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant de voir, c'est que à cette époque, à partir de 1935-1936, Mao a la capacité de créer un espèce de micro-État, hein, qui, dans la région qu'il contrôle. Ce micro-État va se développer évidemment à partir de 1937, je l'ai dit tout à l'heure, et de la guerre sino-japonaise, puisque évidemment on va profiter de la guerre, et de l'aide américaine aussi, hein, on recevra beaucoup d'armes à la fois des Américains et des Soviétiques à l'époque. On va pouvoir s'étendre. Et là, Mao, qui est enfin chef du parti, va pouvoir mettre en place d'une certaine façon l'État qu'il va rêver. Alors, justement, quel est cet État dont il rêve et qui va d'ailleurs appliquer à partir de 1949? C'est un État un petit peu particulier. D'abord, c'est un État avec un chef et un seul chef, hein. C'est le culte de la personnalité qui s'installe dès 1936 très fortement, hein. Il y a un chef qui est omnipotent, qui est omniprésent, on peut dire, même si évidemment il est peu là, hein. Mais il y a cette mystique du chef qui est extrêmement forte. Ensuite, il faut créer un État-parti qui va contrôler l'ensemble, on pourrait dire, l'ensemble de la population. Tout doit être sous contrôle. Tout doit être sous contrôle, mais avec l'appui de cadres dirigeants que Mao va garder sous ses ordres. Et on voit dès les années 1937-1938 se développer ce qu'on appelle des mouvements de rectification, c'est-à-dire que tous les 2, 3, 4, 5 ans, il y a un mouvement de critique des cadres du parti qui se met en place avec élimination d'un certain nombre, y compris élimination physique. Donc, un des éléments fondamentaux du régime qui va s'installer en 1949 est déjà là. C'est cette idée d'anti-bureaucratisme, qui est tout à fait dans la veine de Mao. Donc il y a apparemment une contradiction ici. On crée un État tout puissant, mais en même temps cet État ne doit pas s'installer finalement dans la société. À tout moment, on doit pouvoir changer de cadre pour éviter que tout ça devienne très bureaucratique, routinier, gnangnan, train-train quotidien, etc., etc., si vous voulez. Bon. Et d'ailleurs, je signe que d'une certaine façon, il reste un petit peu de cet élément aujourd'hui encore, puisque vous voyez que régulièrement, les dirigeants chinois disparaissent, hein, et même à des niveaux extrêmement élevés, avec cette idée que l'on doit surveiller constamment les gens, et que les gens ne sont pas propriétaires de leurs fonctions, qu'à tout moment, on peut sonner à leur porte à 5 heures du matin, et ce n'est pas le laitier qui vient livrer le lait, mais c'est la police. Hein. Voilà. Donc, toujours cette idée qu'un État, un État-parti, mais avec un chef qui peut à tout moment changer les choses. Apparemment, contradiction, mais pas tant de contradiction que ça. En tout cas, ça dure pendant un certain nombre de temps. C'est l'époque aussi où Mao va mettre en place des politiques qui sont très anti-intellectuelles. Mao, qui est lui-même un intellectuel d'une certaine façon, et déteste les intellectuels. Lui, il prône la pratique, les solutions simples, les gens qui coupent les cheveux en quatre, qui sont, etc. Non. Il a une espèce de référence, une espèce de bon sens commun, pourrait-on dire, qui doit s'appliquer. Donc il est plus un tacticien, on pourrait dire, qu'un intellectuel qui va essayer de trouver des solutions. Et alors, là, dès 1937-1938, dans les bases du Parti communiste, il y a mouvement anti-intellectuel. On met les intellectuels, on les exécute, mouvement très dur en 1942, où on va passer par les armes une bonne partie de l'intelligentsia chinoise. Bon. Et puis utilisation des campagnes de masse, des campagnes où on va déterminer des ennemis. Alors les ennemis, c'est les riches paysans, c'est les propriétaires, c'est les mauvais cadres, etc., etc. Agiter sans arrêt la société pour qu'elle ne repose pas, si vous voulez. Et puis le goulag. Le goulag chinois, c'est déjà cette époque-là. Cette idée que, il va falloir supprimer ou en tout cas mettre en prison pas mal de gens, mais sans passer par des tribunaux, sans passer par des jugements, etc. Mais on ne fait même pas semblant. On ne fait même pas semblant d'avoir des jugements. On met directement les gens dans des camps. Donc, on voit déjà son style très personnel à Mao quand même, hein, qui se met en place et que l'on verra à partir de 1949. Alors, revenons peut-être rapidement sur Chiang Kai-shek, mais juste très très rapidement sur la fin hein, de Chiang Kai-shek d'une certaine façon, parce que finalement il nous reste 30 ans encore, hein, pas tout à fait 30 ans, 25 ans, hein, à faire, hein, puisque ces deux personnages se retrouvent à la tête d'un État différent, hein, en 1949, et vont mourir pratiquement en même temps. D'un côté, Chiang Kai-shek. Alors très très curieux hein, ce personnage. Tout ce que Chiang Kai-shek a absolument été incapable de faire sur le continent, il va le faire extrêmement rapidement, avec beaucoup d'efficacité à Taïwan. Alors pourquoi il va le faire? Il va le faire parce que, ma foi, c'est ça ou rien, c'est-à-dire que là il se retrouve sur ces petits îlots rocheux de Taïwan alors qu'il était le grand chef de la Chine, que c'est la guerre froide, donc il a un peu chaud aux fesses comme on pourrait dire, hein, puisque il y a la Corée du Nord qui est pas loin, il y a la Chine qui est en face, ça chauffe quand même à l'époque, donc il a intérêt à réussir quand même sur place et il va par exemple faire quelque chose qu'il n'a jamais réussi à faire sur le continent, ou qu'il n'a jamais osé faire, c'est nettoyer le Kuomintang d'une manière très forte. Alors d'abord, il va nettoyer le pays. Hein. Taïwan, rappelez-vous, j'en ai parlé, entre 1895 et 1949, ce n'est pas du tout un territoire chinois, c'est un territoire japonais. La langue la plus parlée sur l'île est le japonais. Hein. Les élites sont complètement japonisés, ils ont été faire des études à Tokyo, etc., etc. Et pour eux, quand ils voient débouler le Kuomintang pour reprendre l'île après le départ des Japonais, eux, ils sont pas vraiment d'accord. Hein. Ils disent, mais nous, on n'est pas chinois, nous. Hein. Nous, on n'est pas chinois, on est taïwanais. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent? En plus, bon, les gens du Kuomintang débarquent, ils pillent tout, ils piquent tout, etc. En 1947, il y a un massacre assez terrible de 10 000 personnes qui réclament justement le départ des troupes, notre gouvernement, etc., etc. Et quand Chiang Kai-shek arrive sur Taïwan, là, de nouveau, il va nettoyer un peu le pays, mais en même temps, il va nettoyer le Kuomintang. Il va mettre beaucoup de gens du Kuomintang à la porte. Il va même exiler la famille Song, en dehors de sa femme quand même, il va garder quand même sous la main. T.V. Song, H.H. Kung, Song Hai-ling, aux États-Unis. Parce qu'on ne veut plus en entendre parler de ces gens-là. C'est fini, hein, la corruption, les magouilles, etc., etc. Immédiatement, il va mettre en place une réforme agraire. Hein, il va redistribuer la terre aux paysans. Il va donner en échange aux propriétaires fonciers des actions des grandes entreprises nationales qu'il va créer. Et ce qui est très intéressant dans cette aventure taïwanaise, j'ai pas le temps de peut-être que la prochaine j'ai le temps de faire un cours là-dessus, mais c'est que la politique de Chiang Kai-shek n'est pas du tout à l'époque la politique que l'on définit souvent comme pro-américaine, comme libérale, etc., etc. Ou c'est la Taïwan capitaliste, pas du tout. Chiang Kai-shek révèle là ce que l'on devinait déjà très clairement quand même quand on regarde les choses de près sur le continent, parce que par exemple sur le continent il avait gardé la main, le Kuomintang contrôlait très fortement les entreprises, les grandes entreprises, etc. C'est que Chiang Kai-shek est extrêmement nationaliste évidemment, hein, jusque même encore aujourd'hui dans la constitution n'a pas été réécrite officiellement, Taïwan contrôle l'ensemble du territoire chinois. Hein. Dans les faits, il y a eu des textes qui ont été ajoutés à la Constitution, Mais la constitution elle-même n'a pas été changée. C'est une situation qui est assez curieuse. Donc, nationaliste, c'est-à-dire jusqu'au bout, Kai-shek considérait que le gouvernement de Taïwan était le gouvernement légitime de la nation chinoise. Mais surtout, il est extrêmement anticapitaliste. C'est-à-dire que les entreprises, les grandes entreprises qu'il va développer, ça va être des entreprises qui vont être sous contrôle de l'État et même sous contrôle très directement du parti unique, le Kuomintang. Il va être aussi très anti-impérialiste et très anti-américain. Contrairement à cette image que l'on en a, certes, c'est un allié des Américains, mais un allié extrêmement difficile avec les Américains. Les Américains vont le très rapidement détester, même sur le continent, encore plus quand il sera à Taïwan. Heureusement, sa femme fait un petit peu le... l'équilibre avec les Taïwanais par ses réseaux méthodistes, etc., etc. Et on voit tout au long de l'histoire de Taïwan, et avant même, quand il est sur le continent, des tas de moments où les Américains et Chiang Kai-shek s'engueulent, mais vraiment vertement, ils sont au bord de la rupture, et Madame Song va voir ses amis méthodistes en disant ça va pas du tout, là, il faudrait faire quelque chose, et les méthodistes vont faire pression auprès du gouvernement américain, des membres du Parlement, etc., etc., pour que l'on ne rompe pas les relations avec Taïwan. En 1950, beaucoup d'Américains, parmi personnel politique, considéraient qu'on n'avait qu'à laisser tomber ce Chiang Kai-shek, qui nous cassait les pieds, etc. Et c'est là aussi, par le courant missionnaire, on pourrait dire, qu'on a pu conserver quand même un certain nombre de choses. Et que va faire effectivement Chiang Kai-shek ? Il va créer des grandes entreprises, dont certaines, par exemple, continuent à fonctionner, Giant, par exemple, une entreprise privée maintenant, mais qui était au départ une entreprise d'État, le plus grand producteur du monde de vélos, quand même, c'est pas rien. Donc, développement de grandes entreprises, qui vont alors être entreprises monopolistes, qui ont totalement le contrôle de la consommation sur place, et à côté de ça, un petit secteur, petit pas au niveau du nombre de gens, parce que beaucoup de gens y travaillent, mais petit au niveau de l'activité, on pourrait dire, d'ateliers, de petites usines privées, mais pour l'exportation. Donc, une politique, disons, étatisée, qui laisse évidemment une place au marché, mais une place extrêmement limitée. Le marché n'a absolument pas de fonction l'île de Taïwan. Le marché, c'est pour les étrangers, c'est pour vendre aux étrangers des produits qui sont faits à Taïwan. Donc, on voit bien là que contrairement à ce que l'on pouvait croire, on peut être à la fois, on pourrait dire, ami des Américains, allié des Américains, et en même temps, à l'époque en tout cas, ultra-nationaliste, ultra-anticapitaliste, on pourrait dire. Il n'y avait pas de capitaliste sur le continent. Les capitalistes, c'étaient les dignitaires du Kuomintang, qui avaient le contrôle des entreprises, et être très évidemment anti-américain, en tout cas extrêmement critique vis-à-vis des Américains. Donc, voyez ce personnage-là qui devient tout d'un coup extrêmement, extrêmement ambigu. Alors, si on revient à Mao pour vraiment conclure deux, trois choses sur 1949 jusqu'à 1976, bon là, vous savez un peu plus des choses, puis on en avait parlé, je crois, on en avait parlé l'année dernière et puis l'année encore d'avant. Finalement, l'attitude, le comportement de Mao après 1949, ma foi, c'est que la suite logique de ce qui s'est créé dans les années 1936 jusqu'en 1945. C'est-à-dire que, à la différence des soviétiques, qui ont mis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour contrôler finalement la société qu'ils ont pris en main en 1917. Parce qu'en 1917, il n'y avait pas d'État soviétique, il n'y avait aucune structure, il a fallu peu à peu construire tout ça. En Chine, en 1949, quand le parti prend la Chine en main, il y a déjà cet État qui existe. On a déjà expérimenté à peu près tout. sur les zones déjà contrôlées par le parti. On a déjà fait une réforme agraire, on a déjà massacré quelques propriétaires fonciers, on s'est déjà fait la main sur les opposants, on sait déjà comment gérer les cadres en faisant des campagnes de rectification, etc., etc. Et toute la politique, finalement, qui va être menée de 1949 jusqu'à 1976 par Mao, va être la continuation. On retrouve tous les ingrédients dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée d'un parti qui contrôle l'ensemble du territoire, d'un État qui est omniprésent de partout, hein, jusque dans la cuisine des gens, on peut dire, hein, puisque le système de contrôle jusqu'à la fin des années 70 hein, incluait au niveau très local ce qu'on appelle aujourd'hui encore les comités de résidents. Hein, mais qui n'ont plus tellement la même fonction. À l'époque, le comité de résidence c'était quoi? C'était un des gens qui, dans chaque quartier, à tout moment, pouvait ouvrir la porte chez vous et voir ce que vous faisiez, si par hasard vous faisiez des choses qui approuvées par la morale ou par l'idéologie du parti. Bon, où on disait aux enfants qu'il fallait dénoncer leurs parents s'ils voyaient des choses bizarres chez eux, etc., etc. C'est vraiment hein, un parti qui contrôle ou qui veut avoir un contrôle totalitaire, on peut dire, de la société. Mais on peut dire aussi d'une certaine façon que la Chine, les années 60, 50, 60, 70, en tout cas à certains moments, c'est un ultra-totalitarisme. Parce que quand Mao s'en mêle très directement, on aboutit à une situation où finalement le seul qui ne subit aucun pouvoir, c'est la personne elle-même de Mao. Et on a vu ça très clairement au moment de la révolution culturelle, hein, quand Mao annonce la révolution. Hein, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est absolument unique dans l'histoire de l'humanité, où un empereur, si on veut, décide qu'il faut faire la révolution contre les gens qui sont sous l'empereur. Hein, c'est exactement ça, la révolution culturelle. C'est l'appareil du parti ne m'obéit pas assez, hein. Ils ne veulent plus des campagnes de rectification, ils veulent s'installer comme ça dans leurs petits privilèges, etc. Moi, ça ne me va pas. Moi, ça ne me va pas. Personne ne doit être stable, ne doit être tranquille, ne doit être en sécurité. Hein. Si on veut faire avancer la société, il faut que cette société soit toujours en danger, soit toujours en mouvement. Hein, soit toujours, etc. Bon, et l'affaire de Corée, par exemple, hein, en 1950, c'est ça aussi. Hein. Il explique Mao qu'il faut faire la guerre parce qu'on est en train un peu de devenir tout mou, quoi. Hein. Bon, alors, non, c'est pas lui hein, qui va faire la guerre, évidemment, c'est, etc., etc. Bon, c'est-à-dire que la limite, évidemment, de cette espèce d'esprit anarchiste, on pourrait dire, d'une certaine façon, hein, d'une certaine façon, cet esprit de « il n'y a pas de règles », etc., etc., c'est la personne elle-même de Mao. Hein, c'est-à-dire que le seul anarchiste, c'est Mao, hein, qui lui peut décider un jour, hein, quand il est de mauvaise humeur, de lancer un mouvement politique ou de réprimer telle ou telle fonction. Hein. Donc il y a cet aspect très très particulier quand même que l'on ne retrouve pas évidemment dans un personnage comme Chiang Kai-shek tel que je l'ai décrit. Voilà. Alors, je vais essayer 10 minutes, vous avez de la chance aujourd'hui, j'étais extrêmement généreux.